Chapitre 4. Gymkhana. C'est la première fois que je m'avise d'écrire un récit. Je viens de relire ce qui précède et je reste confondu d'avoir si mal exécuté ma tâche. Je voulais composer une relation simple et brève, photographique. Malgré moi, je me suis étendu complaisamment, tantôt sur mes amours, tantôt sur le prodige du sixième sens. Pourtant, je ne dois ouvrir mon cœur qu'autant que l'exige la clarté de l'histoire, et ce n'est pas ici qu'il convient de parler des courants de Foucault, de self-induction et d'hystérésis. Car mon mémoire technique contient là-dessus tout ce que Jean Lebris a pu me faire connaître par le secours de ses yeux électroscopes. Je m'efforcerai dorénavant de serrer de plus près ma ligne de direction. Les semaines qui suivirent la confession de Jean Lebris m'ont laissé le souvenir d'une période singulièrement ardente et pleine. Amour, amitié, dévouement aux malades, curiosité scientifique, j'avais plus d'une raison pour m'associer à l'existence de mes voisins. Aussi, en quelques jours, étions-nous devenus inséparables. Mais je me rappelle combien il m'était difficile de répartir également mes assiduités et de cacher, sous l'apparence d'une galanterie banale, les hommages d'une passion sans cesse grandissante. Madame Fontan et Madame Lebris, s'étant prises d'affection, ne se quittaient guère. Fanny, libre de toute contrainte, avide de mouvement comme de charité, toujours prête au bien et au plaisir, partageait son temps entre l'aveugle, le sport et les parties que nous organisions. Cependant, toutes les portes s'ouvrirent devant sa grâce, sa belle humeur et son infortune. De nombreuses invitations ne tardèrent pas à l'assaillir. Elle y céda. Or, il faut savoir qu'en été, l'humble Bellevue devient un endroit fort mondain à cause des maisons de campagne et des châteaux qui la voisinent. Le dimanche, la sortie de la messe rassemble toutes sortes d'élégance et la file des autos s'allonge jusque sur le cours. Moi-même, assez sportif et loin de mépriser les joies du siècle, j'ai toujours fréquenté sans ennui tout ce beau monde où je tiens ma petite place de médecin scrupuleux, capable de faire figure à une table de bridge ou devant un filet de tennis. Mademoiselle Grive fit sensation. C'était à qui la convierait. Je ne m'en plaignais pas. La plupart du temps, Madame Fontan demeurait au logis en l'absence de sa nièce, si bien que Fanny Grive et moi nous trouvions seuls parmi les réunions et qu'il en résultait une sorte d'intimité dont la sensation m'était des plus douces. Quant à Jean Lebris, inutile de dire qu'il fuyait comme la peste toute occasion de démentir sa sauvagerie. Pour l'apprivoiser au profit de la charmante réfugiée, il m'avait fallu rien de moins que l'irrésistible séduction de Fanny, sa bonté serviable, son entrain communicatif, ce bon garçonnisme si exquis dans une jeune fille douée d'un pareil éclat. Il aimait la voix de sa lectrice, la gentillesse prévenante de son guide, mais, infirme et farouche, il repoussait toujours nos instances quand nous parlions de le conduire à quelque petite fête. Malgré toute la violence de l'amour qui m'envahissait, Jean Lebris tenait une grande place dans ma vie. Je le soignais de tout mon cœur et de tout mon savoir, et sa gratitude se manifestait par la complaisance avec laquelle il s'apprêtait à mes études expérimentales. Comme on le verra dans mon mémoire, j'employais Jean Lebris à plusieurs fins que voici. Je me servais de son intermédiaire pour observer visuellement, l'un après l'autre, les phénomènes électromagnétiques. Mes études antérieures n'avaient pas fait de moi un spécialiste de l'électricité, mais je me procurais les ouvrages les plus récents, je fis l'emplette de plusieurs appareils, et sous couleur de m'instruire, j'obtins l'autorisation d'approcher, avec Jean Lebris, les dynamos et les transformateurs de l'usine pour la captation de la force hydraulique de la Saône. Enfin, le souvenir aidant, nous pûmes reproduire à quelques-unes près les expériences mêmes du docteur Prosop. La collaboration de Jean ne m'était pas moins précieuse dans l'exercice de ma profession. Placé dans la chambre voisine de mon cabinet de consultation, il distinguait par-delà le mur le système nerveux de certains malades que je trouvais bon de soumettre à cet examen électroscopique, et plus d'un guéri grâce aux indications qui me furent données de la sorte. Je n'aurais garde enfin de mettre les expériences psychophysiologiques auxquelles j'employais cet admirable spectateur du fonctionnement de l'âme. Mais ici les résultats furent médiocres, le mécanisme étant tout à fait inconnu, très délicat et très compliqué. Pour mieux réussir, pour vaincre la rapidité et la petitesse des phénomènes, il aurait fallu posséder quelque instrument qui fût pour les électroscopes de Jean Lebris ce que sont pour nos yeux les verres grossissants. Malheureusement, force m'était de borner mes travaux à l'utilisation de l'œil scientifique sans pouvoir les étendre à l'étude captivante de cet œil lui-même. Sur ce point, Jean se montra toujours irréductible, s'insurgeant contre toute tentative d'investigation. « Mais quand je serai mort, répétait-il, quand je serai mort, vous aurez toute latitude. » Cette phrase m'était si pénible que je finis par ne plus insister. D'ailleurs, les yeux artificiels étaient difficilement accessibles. Il y avait bien un moyen. Mais j'en parlerai tout à l'heure. Ainsi, l'esprit heureux, le cœur enfiévré d'espoir, je vécus des semaines intenses, oubliant parfois, dans mon égoïsme, que les jours de Jean Lebris s'étaient comptés, l'oubliant avec d'autant plus d'aisance que la vie lui était aimable, et que son mince visage s'éclairait d'un bonheur que rien ne paraissait troubler, ni l'approche du terme inexorable, ni la privation de la vraie vue, ni l'existence menaçante du terrible prosope. Celui-ci, du reste, ne rappelait nullement qu'il existât. Une surveillance attentive, voire soupçonneuse, ne me procurait aucun indice du plus faible danger. Les docteurs mystérieux, rebutés par les difficultés de l'entreprise, ou confiant peut-être dans le mutisme de Jean, semblaient avoir pris leur parti de sa fuite. Par ailleurs, nos précautions ne se relâchaient pas, en ce sens que Jean, toujours armé, ne sortait plus jamais seul et que, pour être devenu une habitude, ma vigilance n'en restait pas moins policière. Jusqu'au gymkhana du baron d'Arcet, nul événement digne de mémoire ne se produisit. Encore l'épisode que je vais retracer fut-il un événement sentimental qui me resta personnel et passa inaperçu. Si Dieu existe, Dieu m'est témoin, Fanny, que je n'avais pas l'intention de vous déclarer mon amour ce jour-là plutôt qu'un autre. Oh, je sentais bien que le moment approchait. Je sentais bien que tout m'encourageait à vous aimer, vos regards contents, vos sourires amis, des joies, des déceptions que je voyais passer sur votre front, mille choses, mille rien, enfin tout. Mais cela même était si bon. Et puis au fond, oui, j'avais peur. À mon âge, on sait déjà tant de pauvres histoires, on a déjà vu tant d'amoureux s'égarer cruellement. Et il y eut ce gymkhana dans ma destinée. Vous rappelez-vous comme il faisait beau? C'était le dimanche 1er septembre. Toute la population de Bellevue s'était portée vers le château d'Arcet. Les 3 kilomètres de route étaient peuplés de marcheurs. Vous étiez venu dans la limousine des Lalleries. Je vous avais dépassé sur ma torpedo à la hauteur de Chauffour. Et le clou du gymkhana, le concours d'autophanie, vous en souvenez-vous? Nous étions 7 concurrents, chacun accompagné d'une jeune fille. J'étais sûr d'avance que vous déclineriez les offres des 6 autres pour venir vous asseoir auprès de moi, derrière le pare-brise de ma torpedo. Quelle joie vous m'avez faite pourtant en répondant à ma certitude. Nous étions 7 qui devions lutter de lenteur, jouter d'adresse à travers un labyrinthe de quilles, nous tenir en équilibre sur un pont basculant comme une balançoire, dessiner des chiffres en marche arrière, courir à la montre sur 100 mètres de route 10 fois parcourue dans un sens et dans l'autre. Je vois encore la noble esplanade du château. J'entends les acclamations qui saluaient mes modestes victoires. On nous couvrit de fleurs, et en regagnant le parc des voitures, je comprenais que la sympathie publique nous enveloppait tous deux, nous associait. Je lisais sur les physionomies une pensée unanime, on disait « le beau couple » sur notre passage. Un enthousiasme sagace nous fiançait. Vous étiez divinement jolie. Vous aviez le teint animé, l'œil vif. Vous laissiez voir tout le plaisir que vous preniez à ce petit triomphe. Il s'y mêlait un peu d'énervement, le tournoi sportif ayant eu ses vertiges, ses crispations, ses transes. Il me semblait que j'avais gagné 2 prix au lieu d'un. Nos amis, gentiment complices, affectueux et rieurs, nous forcèrent à revenir ensemble dans ma torpedo garnie de roses. Une conspiration spontanée s'est étourdie. On aurait juré que notre destin venait d'apparaître à tous et que chacun voulait contribuer à son avènement. Nous glissions doucement sur la route ombragée. Le pare-brise, dans son cadre enguirlandé, me renvoyait votre image assombrie. Sous prétexte d'éviter la poussière des autres voitures, je pris un chemin détourné. Quelqu'un m'a dit qu'on nous voyait de loin fuir à travers les champs comme un buisson échappé d'une roseraie. Bientôt, on ne nous vit plus. Alors, je pris votre main nue, et comme vous la laissiez dans la mienne, je la portais jusqu'à mes lèvres, où je n'eus pas besoin de l'appuyer. Vous m'aimiez. Ah, il y avait un dieu ce jour-là. Vous m'avez regardé, je frissonnais, notre silence valut un serment. Quelques minutes après, je vous disais « Voulez-vous, nous marierons le mois prochain ?» Réveillé brusquement, vous vous êtes écrié « Oh non, nous ne pouvons pas !» Je m'étonnais « Pourquoi nous sommes libres ? À quoi bon retarder ?» Et puis, voyez-vous, je voudrais tant que Jean Le Bris fût encore là. Jean Le Bris, se fit-vous. Mais, précisément, c'est à cause de lui. Vous me considériez d'un air surpris, et moi, je vous interrogeais d'un regard effaré. Je crois qu'il ne faut rien lui dire, murmuriez-vous. Les yeux baissés, la foudre tombait sur moi. Je dus pâlir affreusement. Vous m'avez ressaisi la main, disant « Ami, soyez bon jusqu'à la fin. Je pensais que vous aviez vu. Mais le pauvre garçon serait si malheureux. Oh, non, on n'en est pas supposé qu'il m'ait avoué. Non, mais j'ai bien compris. » Et pouvais-je lui briser le cœur? Pouvais-je le faire souffrir, lui qui va bientôt nous quitter? Hélas, ami, vous-même, tout à l'heure, vous craignez que Jean Le Bris ne fût plus là dans 2 mois pour assister à notre mariage. Alors il faut attendre, n'est-ce pas? Oui, répondis-je, nous attendrons. Cela est bien, cela est juste. Vous êtes la meilleure. Pardonnez-moi, je ne savais rien. Je ne suis qu'un niais. Je vous admire, je vous aime. Je vous aime aussi, me dites-vous lentement. Le sang revenait à ma face. Nous rentrâmes la main dans la main. À tout instant, je vous regardais comme on respire une fleur. Les roses dont vous étiez parfumaient notre tête à tête. Quelques-unes au vent de l'auto s'effeuillaient derrière nous. Radiographie. J'étais hargneux et triste, et j'étais dépité. Ainsi, dès mes débuts dans le rôle d'amoureux, j'avais éprouvé l'aveuglement traditionnel. Jean aimait Fanny, et moi qui vivais auprès d'eux, je n'avais rien deviné. Mais vraiment, était-ce possible? Après tout, si Fanny se trompait, elle avait pu se méprendre à la douceur de Jean. Ce garçon timide était tendre, caressant. Son amitié et ses inclinations les plus platoniques se traduisaient en prévenance qu'une jeune fille adulée pouvait croire inspirée par d'autres sentiments. J'interrogeais mes souvenirs, j'étudiais le passé comme un juge d'instruction. Et alors une multitude de faits se dressèrent. Pendant quelques jours, j'épiais les façons d'être de l'aveugle, et même, honteusement, celle de Fanny. Elle avait raison, il fallait attendre, il fallait se taire. Après ma mort, maintenant la sinistre parole de Jean Lebris avait un double sens. L'échéance du terme funèbre me permettrait à la fois de connaître le secret de Prosope et d'épouser Fanny Grive. Un étrange hasard accumulait d'avance les consolations autour de la mort de mon ami Jean. On ne doutera point qu'à dater de cette découverte, je mis un acharnement sans pareil à prolonger sa vie jusqu'à l'extrême limite. Dieu merci, je n'ai rien à me reprocher là-dessus. Et si aujourd'hui je suis tourmenté par quelques remords, ce n'est pas d'avoir failli à ma tâche la plus sacrée. C'est seulement de n'avoir pas toujours résisté au besoin de les séparer, elle et lui. Parfois, en effet, une inquiétude intolérable me saisissait. Malgré toutes les preuves de tendresse que Fanny me prodiguait à la dérobée, je nourrissais les sourdes angoisses de la jalousie. Je me prenais à redouter la beauté diaphane de Jean, sa jeunesse touchante, la délicatesse nuancée de son âme sensible, l'attrait tout-puissant de la pitié, la contagion de l'amour et jusqu'à cette ardeur qui est le propre des phtisiques. Les savoirs ensemble m'exaspéraient, mais par ailleurs, je répugnais maintenant à me mettre entière dans leurs entretiens. Car la vue des jeunes gens côte à côte m'irritait comme un sarcasme, et bien que je possède à l'ordinaire le gouvernement de mes attitudes, bien que mon visage ait coutume de m'obéir, je craignais que Jean Lebris ne s'aperçût de mon trouble, lui qui voyait les émotions embraser nos nerfs comme chacun les voit embraser nos fronts. Enfin, je supportais mal que ma fiancée fût exposée aux indiscrétions des yeux scientifiques. Il s'ensuivit que je multipliais les occasions de me trouver seul à seul avec Fanny et que j'entraînais Jean Lebris dans une suite précipitée d'expériences qui l'obligèrent à de fréquents séjours sous mon toit. La science y gagna nombre d'observations sur les courants alternatifs, l'induction et la localisation des centres intellectuels. Mais Jean Lebris, je dois le dire, se prêtait d'assez mauvaise grâce à des exigences qui le privaient si souvent du plaisir de Fanny. Protestait-il, j'en appelais alors au patriotisme, je montrais chacune de nos acquisitions comme un enrichissement national. Il faiblissait en bougonnant, se rendait sans joie, et nous reprenions des travaux que bornait seulement le soin de sa santé. Celle-ci, vers la fin de septembre, m'inspira de vives alarmes. Il fallut espacer les expériences, devenues d'autant plus fatigantes que la finesse du sixième sens ne cessait de s'accroître. D'autre part, après une sérieuse auscultation, il me parut indispensable de radiographier mon malade. Jean Lebris, en dépit de mes objurgations, s'y était refusé jusque-là, niant que cela dût servir à autre chose qu'à me faire apercevoir la structure des yeux électroscopes. « Je vous vois venir, » me disait-il, « mais votre ruse est cousue de fil blanc. Vous savez ce que vous m'avez promis. Si je commence à me laisser faire après cette séance-là, vous m'en imposerez une autre et je tournerai à la bête de laboratoire. » Je lui remontrai fort énergiquement qu'il n'y avait plus à tergiverser, que je n'avais plus le droit de m'arrêter à des caprices et qu'il fallait se laisser radiographier sous peine des suites les plus graves. J'ajoutai sur l'honneur que la curiosité scientifique n'entrait pour rien dans mes raisons et que, si mesquin qu'il se montra dans sa défiance, je le respecterai toutefois, lui jurant que, pour peu qu'il le désirât, je limiterai la radioscopie à l'examen des poumons pour ne la répéter qu'en cas de nécessité absolue. « Il y va de la vie, » continuai-je. Jean rectifia. « Il y va de quelques semaines, de plus ou de moins. » Oh, ne croyez pas que la vie me pèse au point que sa durée me soit indifférente. La vie est belle, et je ne l'aurais jamais trouvée plus délicieuse qu'à présent. » Il poursuit avec gravité comme dans un rêve. Depuis quelque temps, oui, c'est pour moi une vraie fête que la vie. Eh bien alors, questionnai-je en surveillant ma voix et mes nerfs. Il posa sa main sur mon bras. C'est que ce bonheur-là, je n'y ai pas droit, voyez-vous. Je n'ai pas le droit, moi, d'arrêter les vivants dans leur vie, de les retarder dans leur voyage vers le bonheur. Je m'accorde en ce moment un luxe inouï. On me pardonnera, je l'espère, mais il ne faut pas que cela dure trop longtemps. Laissez-moi m'en aller à mon heure naturelle, Barre. La dépasser serait de ma part une indélicatesse, un abus, je dirais presque un crime. Je ne vous comprends pas, dis-je d'un ton rauque. Je ne connais personne qui ne désire fermement votre guérison, et moi je vous supplie au nom de tous ceux qui vous ont cher de vous laisser radiographier. Il secoua la tête. Non, dit-il, n'en parlons plus. J'eus l'intuition qu'une seule influence était assez puissante pour le faire revenir sur sa décision. Le jour même, au tennis des Brissot, j'informai Fanny Griffe de ce qui se passait. « Il m'en voudra certainement d'avoir eu recours à vos prières, lui dis-je, mais l'essentiel est de le décider, car je le trouve bien mal. » Puis je lui rapportai les termes dans lesquels Jean Lebris m'avait opposé son refus, en taisant, bien entendu, tout ce qui concernait les yeux électroscopes. Il me sembla qu'elle pâlissait un peu. Je n'étais venu chez les Brissot que pour la rencontrer et lui parler à l'aise. Nous cheminions dans une allée du parc à l'abri de tous les regards. « Fanny !» m'écriai-je en la voyant pâlir. Et je la dévisageais avec anxiété, mordue par la hideuse jalousie. Mais, sans relever la tête, elle plongea pensivement dans mes yeux le rayon gris de ses prunelles. Puis un souvenir, un sourire triste, imperceptiblement railleur, adoucit ses traits où je l'eus comme un reproche et de l'apitoiement. Confus, désespéré, je balbutiais des excuses passionnées. Mes mains implorantes se tendaient vers elle. J'ai conservé la feuille de noisetier qui me frôla la tempe à l'heure de notre premier baiser. La voici devant moi sur ma table, encore verte et déjà sèche. Le lendemain, Jean le Brie avait capitulé, et il fut convenu que le jour suivant, je procéderais dans la matinée à sa radiographie. Pendant la guerre, l'hospice de Bellevue, organisé militairement, avait été pourvu d'une quantité d'appareils dont quelques-uns, après l'évacuation, étaient restés à la disposition du personnel civil. Le laboratoire de radiographie, installé dans un pavillon spécial, était l'un des plus perfectionnés qui se puissent voir. On l'utilisait rarement, et c'est moi qui en assumais la direction. Je passai à l'hospice dans l'après-midi pour vérifier l'état de l'engin et m'assurer de son fonctionnement. Tout marchait à souhait. Je prévins mon aide qu'il n'assisterait pas à la séance du lendemain et qu'il eut par conséquent à la préparer avec tout le soin désirable. Enfin, espérant encore que Jean le Brie me permettrait de photographier l'intérieur de ses électroscopes, entretenant peut-être l'arrière-pensée inavouée de les faire apparaître et d'en fixer l'image à son insu, je fis apprêter plusieurs plaques sensibles. Une excitation me tenait tout vibrant, et des pensées multiples me traversaient l'esprit, à la vue de cet écran laiteux où tant de choses diverses se dessineraient pour moi, si je le voulais, où le squelette de Jean le Brie viendrait lui-même, dans une apparition anticipée, m'annoncer la date de sa mort, ou peut-être, mais il ne tenait qu'à moi de biffer ce peut-être, la formidable invention du sixième sens commencerait à sortir de son mystère impénétré. Le soir tombait quand je sortis de l'hospice. Rentré chez moi, je dînai rapidement et me mis à compulser les notes qui devaient servir à la rédaction de mon mémoire technique. Je fus tiré du travail par une lugubre rumeur, des bruits de pas pressés, un ronflement. Le tocsin commença de tinter. Un clairon dans la nuit sonna la générale. L'incendie empourprait le quartier Saint-Fortunat. Les grandes toitures de l'hospice se découpaient à la silhouette sur le fond du brasier. Autant que je pouvais l'apprécier, le foyer du sinistre se trouvait dans l'enceinte même de l'établissement. Ma gorge se serra. « Prosope !» m'écriai-je dans la solitude. Quelques minutes plus tard, mes appréhensions étaient confirmées. Accouru sur les lieux, je ne pus que constater l'anéantissement du laboratoire de radiographie dans une flambée crépitante. Par bonheur, l'isolement du pavillon permit de circonscrire le désastre et les salles de malades furent préservées du feu. Les derniers jours du phénomène. L'enquête ne permit pas de découvrir comment l'incendie s'était déclaré. C'est en vain que je parlais de malveillance. Plus d'un supposa que j'agissais de la sorte pour couvrir ma responsabilité, voiler quelque imprudence que j'aurais commise. Et je vis bien qu'il était préférable de ne plus rien dire. D'ailleurs, n'était-ce pas effectivement une imprudence que d'avoir préparé sans aucune discrétion la séance de radiographie? Pour moi, la vérité ne faisait aucun doute. Prosope veillait. Il entretenait avec vous des espions à sa solde. Cela étant admis, il en fallait déduire que Jean le Brie s'était menacé d'un coup de main. Ce fut au demeurant l'avis de l'intéressé. Nous délibérâmes, Jean et moi. J'insistai pour qu'il me laissât prévenir la police des dangers qui l'entouraient. Mais la difficulté de le faire sans trahir le secret de ses yeux l'en détourna. Et à cette occasion, je dus lui renouveler mes promesses de silence. Il fut donc convenu que nous prendrions chacun de notre côté toutes les précautions possibles et la chose en resta là. Un instant toutefois, je fus sur le point de confier mes alarmes à Mademoiselle Grive. En effet, Jean ne pouvait, ne voulait cesser tout à coup de sortir avec elle. Et il me paraissait bien téméraire, pour cet infirme en péril, d'errer seul dans les bois, avec une enfant sans méfiance et sans force. Là aussi, j'aurais voulu m'interposer, mais le damné secret paralysait toujours ma bonne volonté. Alors même que Fanny eût accepté de vagues explications sur la cause de mes craintes, quelle mesure eût-elle prise que Jean n'eût pas pénétré? Comment, par exemple, munir la jeune fille d'un revolver sans que le faux aveugle s'en aperçût et ne mentât rigueur? Hélas, je n'eus pas longtemps à craindre que Jean Lebris fût attaqué au cours d'une promenade. Comme je m'apprêtais à le conduire à Lyon pour le faire radiographier, une crise violente accompagnée d'hémoptysie le terrassa. Nous le couchâmes, il ne devait pas se relever. J'estimais sur le champ qu'il ne vivrait pas au-delà d'une quinzaine. Dès lors, nous n'eûmes plus d'autre souci que de l'assister. Fanny s'installa à son chevet, aidée de Césarine, de Madame Fontan et, beaucoup moins, de la pauvre Madame Lebris. Je m'autorisais de la faiblesse du malade pour interdire l'accès de sa chambre à quelque étranger que ce fût, et je passais près de lui tout le temps dont je pus disposer. Jean Lebris fut d'abord la proie d'un accès de fièvre pendant lequel il perdit complètement la notion du réel. Les crispations de sa face et le geste répété de mettre ses mains devant ses yeux me firent comprendre néanmoins qu'il souffrait d'éblouissements électriques, et je le masquai des lunettes opaques en recommandant à Fanny de suivre mon exemple même la nuit, toutes les fois que Jean paraîtrait incommodé comme par une lumière. Mademoiselle Grive, infirmière docile, n'avait à faire aucune objection et n'en fit pas. Le troisième jour, Jean sortit de sa torpeur. Fanny et moi, de part et d'autre du lit, nous observions le lent réveil. Le malade tourna la tête vers moi, puis vers elle. J'eus le pressentiment qu'il allait prononcer nos noms et révéler ainsi qu'il nous avait reconnus, qu'il voyait. Car il s'était rapidement habitué aux distinctives électromagnétiques des uns et des autres. Avant qu'il ne parlât, je lui dis par prudence « Nous sommes là, Mademoiselle Grive et moi. M'entendez-vous, Jean ?» Il fit un signe d'affirmation, resta quelques minutes immobile, prit nos mains dans ses mains trop chaudes, les rapprocha et les joignit avec une lenteur qui prit tournure de solennité. « Monsieur et madame, murmura-t-il. Son visage était de ceux qui ne doivent plus jamais sourire. Quel regard nous échangeâmes, nous qui l'accordaient avec tant de simple bonté. Je vis soudain les prunelles de Fanny se noyer de larmes. Ne pouvant maîtriser son cœur, elle se laissa tomber à genoux contre le lit et convulsivement sanglota. Après un silence, Jean Lebris se reprit à chuchoter. Je me penchai pour l'entendre. C'est à moi qu'il s'adressait. « Bah, disait-il, dans le secrétaire, là, tiroir du milieu, testament, vous le prendrez. Maman, préjugé, s'opposerait certainement à ce que vous savez. » Mais testament catégorique, je vous lègue mes yeux, j'autorise dissection. Ah, prends-en, sonne à la porte, empêchez-le d'entrer, mon revolver. Fanny, entendez-vous cette clochette? C'est Prosope, Il a brûlé l'hospice. Il n'aura pas mes yeux. Oh, comme il sonne, comme il sonne !» La fièvre l'avait repris et le délire commençait. Jean laissait échapper un flux de paroles, parfois incohérentes mais plus souvent révélatrices du secret de sa vie. Ses souvenirs de guerre et surtout de captivité l'obsédaient. Redoutant les bavardages et les curiosités, rempli d'admiration et de gratitude pour le zèle muet de Fanny, je fis en sorte qu'à partir de là, Jean Lebris ne reçut d'autres soins que ceux de notre ami ou les miens. Son état empirait sans cesse. Tantôt il divaguait et tantôt reposait. Par intervalles, redevenu lucide, il nous entretenait faiblement de notre avenir nuptial, qui semblait son unique préoccupation. Mais le soir du sixième jour, comme je venais de lui faire une piqûre hypodermique, « Qu'avez-vous mis là ?» me demanda-t-il en indiquant un angle de la pièce. « Là-haut, il n'y a rien, mon petit Jean, c'est une illusion. » « Oh, pourquoi me tromper ? Allons, Barre, qu'est-ce que c'est ?» Ses paupières s'élargissaient sur ses yeux de statue. Il suivait dans l'espace le déplacement d'une vision qui sans doute s'évanouit, car il n'insista pas davantage. Je n'avais attribué aucune importance à ce que je considérais comme un fantasme provoqué par la fièvre. Mais le phénomène se reproduisit si fréquemment, le malade en fut impressionné d'une façon si remarquable que je suis forcé de m'arrêter sur ce sujet. Autant que j'ai pu le comprendre, la première apparition avait affecté pour Jean Lebris la forme d'un disque de brouillard violet animé d'un frémissement rotatoire. Ce disque traversa la chambre, s'éloigna en perçant le plafond et disparut. Mais chaque jour, de plus en plus distincts, d'autres disques vibrants se montrèrent au moribond. Il les décrivait pour lui-même, sans s'occuper de moi ou de Fanny. Ce n'étaient plus des disques à présent, mais des globes légers, contenant une circulation vertigineuse. Ils vaguaient sans hâte, ils s'en allaient de ci, de là, à travers les solides, passant dans l'atmosphère aussi aisément qu'à travers les meubles, les maisons, le sol. Et ils s'accrochaient parfois aux choses et aux êtres, où leur réunion pouvait former des grappes, que Jean Lebris comparait à des agrégats de bulles de savon pleines de mystérieux tourbillons. Il les chassait, ces bulles, quand elles approchaient de lui. Mais les chasser, le pouvait-il ? On en aurait douté à voir les efforts qu'il faisait pour les arracher de sa poitrine, prétendant qu'elle l'étouffait. Une fois, il m'avertit qu'un de ces globes s'était attaché à mon cerveau, et je reconnais qu'alors je souffrais d'un mal de tête des plus pénibles. Était-ce une coïncidence ? Le problème se pose. Jean Lebris était-il encore à même d'observer ? Le délire lui a-t-il montré des créatures inexistantes, ou faut-il croire que son sixième sens, constamment en progrès, constamment plus puissant, était parvenu à lui faire percevoir des formes encore insoupçonnées? Jusque-là, les yeux électroscopes n'avaient saisi que l'aspect électromagnétique des choses perceptibles par nos sens ordinaires. Or, cet aspect n'avait cessé de devenir plus précis, plus complet. Qui prouve que l'accoutumance des appareils fabriqués par Prosope n'a pas permis à Jean Lebris de distinguer plus avant et de découvrir un monde clandestin, un peuple exclusivement formé d'électricité, constitué par un fluide si subtil que nos détecteurs les plus impressionnables n'en ont pas enfiancé ? Un homme, enfin, a-t-il pu entrevoir l'une de ces races invisibles dont il est philosophique de dire qu'elle nous environne ? Et cette race, eût-elle à son gré de l'humanité, sans que l'humanité s'en doute ? Lui devons-nous parfois la maladie, la démence, la mort ? je ne pus résoudre la question, n'ayant pu savoir à quel moment Jean le Brice délirait et à quel moment il ne délirait pas. Il mourut le 22 octobre au point du jour, après un coma de 24 heures. Fanny le pleura sur mon épaule. Lorsque Jean le Brice avait perdu connaissance, certain que la mort s'approchait de lui à grands pas, j'avais profité d'un moment de tranquillité pour ouvrir le secrétaire. Contre mon attente, le tiroir du milieu était absolument vide. Je cherchais dans les autres et n'y découvris rien qui ressemblât au testament de mon ami. Je fouillais tout le meuble, délogeant les tiroirs pour visiter les dessous et les fonds. Une sueur subite me glaçait les tempes. Il n'y avait rien non plus derrière le secrétaire, ni dessous, rien dans la commode, rien nulle part. De deux choses l'une, ou le testament avait été volé, ou Jean le Brice, m'annonçant l'existence de l'écrit, avait parlé dans la fièvre et pris son attention pour un fait accompli. Le vol me paraissait plus probable. À quelle date, en effet, Jean s'était-il décidé à tracer ses dernières volontés? Sans aucun doute, avant la crise qui devait l'emporter et qui avait suivi de si près l'incendie de l'hospice. Sans doute donc avant cet incendie, à une époque où notre défiance n'était pas alertée et pendant laquelle le vol probablement avait été commis. Quoi qu'il en fût, je risquais fort, par l'effet de ce larcin, d'être frustré d'une connaissance inestimable. À la seule idée de m'adresser à Madame Le Brix et de lui faire admettre la nécessité d'une autopsie, tout espoir m'abandonnait. On conçoit de quelle âme je fermais sur les yeux artificiels les paupières noircies de mon cher Jean le Brice. Pourtant, je n'avais pas le droit d'hésiter. Mon devoir était d'essayer par tous les moyens d'obtenir la libre disposition de ses restes. Mais les officiels se seraient moqués de moi si j'avais fait appel à leur autorité. Qui donc m'eût donné pareil droit, sinon Madame le Brice? Je le lui demandai. Elle me le refusa. Sa religion, ses principes et ce qu'elle nommait son bon sens se révoltèrent. La douleur en elle fit place à l'indignation. Malgré tous mes efforts, elle fit part à Madame Fontan, à Césarine et à Fanny de la profanation à quoi j'avais l'audace de prétendre. En vain me récriai-je que c'était pour la science, pour le pays, que la cécité de Jean offrait une particularité dont l'explication, mais argument prodigieux, intéresserait jusqu'au salut de la France, que Jean lui-même, dans un testament introuvable... Madame Le Brix haussa les épaules. Un testament écrit par un aveugle. C'était pousser trop loin le désir de satisfaire la plus malsaine des curiosités. Madame Fontan et Césarine opinaient du bonnet. Fanny restait muette, mais son charmant visage, fatigué par l'éveil et le chagrin, me conseillait de ne pas insister. « Que votre volonté soit faite, » dis-je à Madame Le Brice. Et la paix revint parmi nous. Mais je sentais, sur la maison mortuaire, l'emprise formidable de Prosope. Occulte, il avait régné sur nous. Il régnait encore. Par deux méfaits, un incendie et un vol, sa volonté s'était dressée victorieusement entre mon désir et son secret. J'étais vaincu, soit, mais il me restait à préserver de tout attentat la dépouille de Jean. Il restait à déjouer tout coup de force ou toute ruse, ayant pour but l'enlèvement des yeux électroscopes. J'étais assis dans le salon de Madame Le Brice, le menton sur les poings, sombre et plongé dans la mère méditation. Une douceur se posa sur mon front. Fanny me contemplait tristement. Je n'avais plus aucune raison de lui cacher la vérité. Le « quand je serai mort », hélas, était révolu. Il y avait longtemps qu'elle se doutait de quelque chose. Du jour où je l'avais prévenu qu'il serait imprudent de me parler par signe en présence de l'aveugle, sous prétexte que la lumière l'impressionnait parfois, elle avait pressenti le mystère. Nos séances aussi, dont nous ne parlions jamais, l'avaient intriguée. Enfin, pendant son délire, Jean Lebris, livré à la nature, ne dissimulait plus qu'il voyait certaines apparences. Fanny me pardonna sans peine d'avoir gardé vis-à-vis d'elle un silence imposé par la foi jurée. « Ah !» lui dis-je, « votre droiture a adouci mes peines. Je ne serai tranquille qu'à l'heure où notre ami reposera dans une sépulture inviolable. Aidez-moi, Fanny. Mais que puis-je faire pour vous, dites ?» Ses beaux bras se nouaient autour de mon cou, et elle levait dans une ardente interrogation ses yeux aimants, cernés d'un mauve délicat. « Mais dites !» reprit-elle. « Oh, vous êtes las, mon pauvre amour, murmurai-je tendrement. Et pourtant je vais vous imposer un surcroît de fatigue. Il faut, jusqu'au bout, que nous montions la garde tour à tour, vous et moi. Il faut que l'un de nous soit là, près de lui, constamment. Jusqu'au bout, Fanny. Jusqu'au cercueil et jusqu'au cimetière. Mais... « Après, ne craignez-vous pas que par une nuit noire, quelqu'un... » Je lui exposai le plan que j'avais conçu. Après quoi, je la laissai dans la place, comme un autre moi-même pieux et vigilant. L'exploit. J'employai toute la journée à donner des ordres aux maçons et aux serruriers avec l'assentiment de Madame Lebris. Elle ne s'opposait nullement à ce que la tombe de son fils fût dans sa partie souterraine une espèce de blockhaus inattaquable. Les ouvriers me promirent de faire diligence. Au vrai, les travaux étaient déjà commencés lorsque vint la nuit. C'était l'heure où je devais relever Fanny de sa funèbre faction. Je la trouvai surmenée, dormant debout. Je la reconduisis de la chambre mortuaire jusque sur le palier, où nous pûmes causer librement. Elle m'apprit que rien d'anormal n'était survenu. Quelques familiers avaient défilé devant la dépouille mortelle, aucun suspect n'avait trahi sa présence aux alentours. Puis, comme je la regardais dans la pénombre, « Je ne vous ai pas vu de toute la journée, » se plaignit-elle. La chère âme se blottissait contre moi, dans un affaissement douloureux et câlin. Elle se serait endormie sur ma poitrine si je n'avais prononcé « Allez, mon ami, allez vous reposer, pour l'amour de moi !» Ses lèvres brûlaient, on aurait dit qu'elle ne pouvait plus s'éloigner. « Fanny, lui dis-je ému par tant de ferveur, comme nous allons être heureux !» À bout de résistance, elle fondit en larmes, me tint passionnément embrassé et s'enfuit en étouffant ses sanglots. « Je t'aime !» lançai-je à voix retenue. Elle me fit un signe au haut de l'escalier. Je le vis à peine. L'ombre s'emparait d'elle. Tout rêveur et bénissant, je m'acheminai vers la chambre coite et calfeutrée où s'allongeait parmi les fleurs d'arrière-saison la pâle figure inanimée. La servante veillait. Elle renouvela les bougies, ramassa des pétales effeuillés et me demanda si je resterais tard auprès de Monsieur Jean. « Oh, toute la nuit, » répondis-je, « vous pouvez aller vous coucher, ma bonne Césarine. » Elle s'en fut. Je m'installai dans un fauteuil et j'ouvris une Bible qui se trouvait là. Mais bientôt, recru de fatigue, moi aussi, rompu d'insomnie, accablé sous le poids d'une déception que l'amour de Fanny ne pouvait qu'atténuer sans la faire disparaître, je dus me lever et marcher pour vaincre l'assoupissement. Ma pensée faisait sous mon crâne un brouillard tumultueux. Je ne sais comment, tout à coup, avec la brutalité d'une lumière aveuglante et brusque, s'instaura dans la tête l'idée implacable qu'il fallait à tout prix subtiliser les électroscopes. J'étais seul avec le cadavre, libre d'agir. 11 heures sonnèrent. Avant l'aube, j'avais eu le temps de commettre plusieurs crimes et quelques prouesses. Mais cela, c'était une action louable, n'est-il pas vrai? Pouvais-je hésiter? Pouvais-je laisser enfouir à jamais le secret du sixième sens? À jamais, pour mes compatriotes seulement. Quoi, nous, Français, nous resterions dans l'ignorance d'une semblable découverte, alors que l'ennemi la posséderait et la perfectionnerait? Quoi, demain, si la guerre éclatait à nouveau, nous subirions cette effarante infériorité d'avoir à combattre des manières de surhomme, d'avoir contre nous, parmi nos innombrables assaillants, des spécialistes extraordinaires qui déchiffreraient à même le ciel les messages du sans-fil, qui repéreraient les réseaux les plus profondément enterrés, les batteries d'artillerie les mieux défiées, des gens pour qui les montagnes seraient transparentes. Je me rappelais avec une sorte d'effroi l'étonnante perspicacité de Jean Lebris. Je le revoyais indiquant sans hésitation le point défectueux du magnéto ou l'endroit malade d'une moelle épinière. J'apercevais 100 applications pratiques du sixième sens. Enfin, l'évidence était devant moi comme le soleil. Il ne dépendait plus de ma volonté de satisfaire aux exigences arriérées d'une vieille dame de province. J'étais la sentinelle avancée de la défense nationale, foin des préjugés et des superstitions, la patrie d'abord. Aussi bien personne ne s'apercevrait de la violation. C'était l'affaire de 30 ou 40 minutes, et je disposais de plusieurs heures pour faire disparaître toute trace de l'opération. J'espérais même pouvoir, avec un peu d'habileté, me rendre compte de l'incompréhensible soudure des nerfs optiques et des électroscopes. Dressé, croisant les bras en face du cadavre qui recelait un si vaste mystère, j'avais le sentiment d'être possédé par des forces impulsives qui balayaient toutes les convenances et toutes les conventions. Machinalement, je tâtai ma trousse à travers l'étoffe de ma veste et, frémissant comme un drapeau, j'écoutais comme un voleur. La nuit s'écoulait dans un calme rassurant. La maison s'étoffait de silence. Pendant plusieurs minutes, je n'entendis rien d'autre que l'appel lointain d'un nocturne, le grondement d'une automobile attardée, puis un souffle irrégulier venant de la chambre voisine où dormait Madame Lebris. J'hésitais pourtant, et j'ignore pourquoi. Le désir de sursoir m'envahit tout à coup. Je craignais de rêver peut-être, d'avoir un de ces cauchemars d'où l'on sort brisé. Mes facultés vacillèrent, mais ce ne fut qu'une défaillance. J'approchais d'un pas ferme, et, redevenu professionnel, je soulevais d'un doigt léger la paupière encore souple. Une exclamation m'échappa, sourde. Je saisis précipitamment une bougie, soulevai l'autre paupière. À la place des électroscopes, émises là pour simuler leur convexité, deux petites pelotes de laine occupaient les orbites. Et les lunettes aussi, avaient disparu. Je suffoquais, je fus sur le point d'appeler. Mon secret, maintenant, voulait se répandre. J'avais besoin de m'épancher, de raconter, de disputer avec quelque ami plein de commisération sur l'incroyable événement qui m'atteignait et frappait avec moi ma race tout entière. D'un effort, je parvins cependant à mater cette dangereuse exaltation. Personne ne devait connaître ma déconvenue dans toute son ampleur. Personne, excepté Fanny. Mais la pauvrette, irais-je moi, maître égoïste, troubler son repos? Et d'ailleurs, comment l'éveiller à cette heure tardive, sans provoquer l'étonnement de sa tante? Ah, de quelle négligence j'avais fait preuve en abusant de ses forces, et quelle faute de m'être reposé sur elle, du soin de garder le mort en mon absence. Laisser une telle responsabilité à une petite fille qui, depuis 2 jours, les nerfs tendus, ne s'était pas accordé la moindre relâche. Notre adversaire en avait profité, parbleu. Aucun suspect n'est venu, m'avait-elle dit. Eh, pour une femme de 20 ans, l'employé des pompes funèbres n'est pas suspect. Le menuisier qui vient prendre ses mesures n'est pas suspect. Le curé, le médecin de l'état civil, la religieuse embéguinée ne sont pas suspects. J'attendis le matin avec une impatience maladive. Je voulais savoir si vraiment Fanny avait suivi le point en point la consigne donnée. Et j'avais grand hâte aussi, je l'avoue, de retrouver l'asile de sa douceur et de demander à sa compassion l'apaisement de ma détresse. Au petit jour, incapable de me contenir davantage, je montai l'escalier à pas de loup, ne sachant même pas comment j'expliquerais à Mademoiselle Fontan une visite aussi matinale. La porte de l'appartement n'était que poussée, je frappai. Un reflet jaunâtre teintait la reine du chambranle. Je frappai pour la seconde fois, et j'entrebâillai la porte, ce qui me permit d'apercevoir au-delà du salon la chambre de la jeune fille où brûlait encore une lampe. « Fanny !» appelai-je furtivement. « Fanny !» J'entrai, sans plus de façon, tout à fait inconscient de mes actes. La minute d'après, je sus comment on devient fou. À 3 reprises, en l'espace de 2 jours, la même désillusion m'avait touché. Mais cette fois, c'était en plein cœur. Le testament m'avait échappé, les yeux inestimables m'avaient été ravis, et maintenant, oh, maintenant, les lits n'étaient pas défaits. La robe que Fanny portait la veille gisait sur le plancher, près de ces mules d'intérieur jetées au hasard. Dans une armoire grande ouverte, le costume de voyage, que je connaissais bien, manquait entre les autres. Une solitude affreuse glaçait le logis. N'en pouvant croire ma vue, m'adressant à moi-même des paroles sans suite, j'allais de chambre en chambre, stupide et misérable. Je me disais que j'étais la dupe d'un atroce quiproquo, que tout s'expliquerait sans retard, qu'il y avait là quelque abominable coïncidence. Elle allait revenir, voyons, elle n'était pas partie. Ce n'était pas elle qui avait pris les yeux, pas elle qui avait pris le testament. Fanny, voleuse et incendiaire, allons donc. On ne pouvait pas supposer une pareille monstruosité. Cependant, la logique élevait sa voix claire. Des rapprochements s'opéraient dans mon souvenir. L'horreur, peu à peu, devenait possible. Mais bientôt, mon cœur seul refusa de l'admettre. Mais, en laissant errer sur toute chose mes regards stupéfiés, je découvris au fond d'un âtre vide une boulette de papier. C'était un billet écrit par un inconnu dans une langue incompréhensible. Et d'un coup, le désespoir acheva de combler tout mon être, car je me rappelais fort bien le grondement d'Otto qui avait décru dans la nuit, 11 heures étant sonnées, et sur le billet, sur l'ordre que la traîtresse avait reçu, Je pouvais lire le chiffre 11, suivant de près ces mots intraduisibles du français, Bottas et Saint-Fortunat, deux noms de rue qui se croisent dans le voisinage. Alors je me suis assis comme un malade qui souffre beaucoup. J'ai soulevé de mes mains tremblantes la robe de Fanny, et la tête dans les mousselines parfumées, j'ai pleuré pour tout le temps que j'avais passé sur terre sans pleurer. Ensuite, il a fallu descendre, feindre la surprise, doser l'indifférence et se taire, toujours se taire. L'automne s'avançait. Il était donc naturel que Madame Fontan et sa nièce quittassent notre bourgade champêtre pour retourner vers les villes. On s'étonna seulement qu'elles fussent parties si vite, à l'anglaise, sans même assister aux funérailles de Jean. Madame Lebris, honteuse de l'affront, publia qu'une lettre les avait rappelées d'urgence en Artois. Que penser aujourd'hui? Parfois, je me dis qu'elle ne m'aimait pas. Je me déchire l'âme à me convaincre qu'elle a joué la comédie la plus féroce, allant jusqu'à me suggérer ce forfait, abréger les jours de Jean Lebris. Mais quand je repasse, heure par heure, notre vie, quand j'évoque le souvenir irrémédiablement chéri de ses regards, de ses sourires, de ses baisers, de ses larmes, je ne peux plus y voir autant de mensonges et de vilainies. Non, n'est-ce pas, Fanny? Toi qui sans doute ne t'appelles pas Fanny, toi qui ne fus ici, ô Dieu, qu'une espionne sous un faux nom, n'est-ce pas qu'il ne faut pas croire à la félonie de tes yeux? N'est-ce pas que tu ne m'as pas trompé dans le domaine du cœur? Ton odieuse mission, ah, je veux qu'on te l'ait imposée de force, ne l'as-tu pas remplie sans verser une goutte de sang? La douce faiblesse de Jean Lebris n'a-t-elle pas su gagner ta pitié, puisque tu l'as laissée s'éteindre lentement? On m'objectera que rien n'aiguillonnait ta hâte, que, sûr de sa mort prochaine, il te suffisait jusque-là de veiller sur l'œuvre diabolique de Prosope. Mais d'autres diraient aussi que tu avais des raisons moins froides pour prolonger ton séjour parmi nous, des raisons qui me font lâchement espérer je ne sais quel avenir de retrouvailles, d'indigne pardon et de bonheur quand même. Car moi, Fanny, moi qui possède une part du secret que tu sers, moi qui détiens dans mon coffre en grimoires incomplets un peu du trésor de ton maître, Fanny, m'aurais-tu épargné si tu ne m'aimais pas?